Bienvenue dans cette émission du 27 juin 2023 sur ma web TV anthropologique sur laquelle je vous présente de jour en jour une information franche et directe, sans tabou ni concession, accessible, honnête et sourcée. Je vous rappelle que je suis indépendant et donc totalement libre de mes propos. Aujourd'hui, je vous invite à une réflexion autour de la dérive en cours de notre société dans ce versant de société du spectacle qu'un certain nombre d'intellectuels avaient pressenti il y a une cinquantaine d'années déjà, et notamment avec ce phénomène de la guignolisation du monde. Les plus anciens parmi nous se souviendront de cette émission mythique de la chaîne Canal+, les guignols de l'info, où les personnages de notre quotidien télévisuel et public de notre quotidien étaient montrés sous un jour évidemment satirique, mais en exprimant un ensemble de choses qui avaient la particularité d'être à la fois très amusantes, mais aussi quelque part de correspondre à ces vérités que l'on ne nomme pas publiquement, mais que les personnes concernées peuvent parfois ressentir intérieurement. Et l'on sait que des politologues se sont intéressés à la manière dont, hypothétiquement, les guignols de l'info auraient pu, par exemple, favoriser la candidature de Jacques Chirac contre Édouard Balladur en le rendant particulièrement sympathique aux téléspectateurs et dans un ensemble de morceaux d'anthologie comme celui-ci.
L'événement de ce mercredi 29 août, c'est Jacques Chirac à poil. Oui, c'est en tout cas, l'information a été vérifiée, elle est vraie. Et il s'est présenté entièrement tout nu sur la terrasse du Fort de Brégançon le 4 août, alors qu'il savait que des dizaines de photographes le guettaient. Des photos qui, bien sûr, ne paraîtront jamais dans la presse française. Nous en avons quelques-unes. C'est effrayant. Je vous rappelle que cet homme est le chef des armées, qu'il est le garant de la Constitution et qu'il possède la clé de l'arsenal nucléaire. Tout ça à poil.
Oui. Français, cher compagnon. J'ai en effet été photographié nu, à poil, quoi, à Brégançon, par des photographes indélicats et sans scrupules. Bon, vous me direz, qu'est-ce que le président de la République foutait à poil sur sa terrasse avec des jumelles, en train de mater vers un yacht rempli de...
Chirac!
Oui, Claude, ma fille, m'a conseillé.
Trouve une explication, vite.
Oui. Français, j'ai qu'un seul slip.
Chirac!
Mais, j'ai pas fini, là. C'est un slip très vieux, très beau, que j'aime beaucoup. C'est mon slip de l'armée, kangourou coton un peu lâche aux cuisses, mais qui maintient bien.
Chirac!
Ouais. Et comme je ne mets que celui-là, deux jours je le porte, un jour je le lave, trois jours je le porte, un jour je le lave. Pas de chance pour les photographes, ils sont tombés le jour de lessive. Voilà.
Et donc on se souvient comment ce type de production avait l'avantage à la fois de nous faire rire des personnes célèbres, puissantes ou en vue, ce qui est toujours très sain sur le plan psychologique et démocratique, mais également de révéler tout un ensemble de travers en faisant office à sa manière de contre-pouvoir. Et quand Vincent Bolloré, un des nombreux oligarques qui détiennent aujourd'hui tous les médias en France, a pris possession de Canal+, une de ses premières décisions a été de supprimer les guignols de l'info. Il faut savoir que des profils comme lui ou Bernard Arnault, ça a été très bien documenté dans différents livres, sont très paranoïaques dans leur personnalité, c'est pas un diagnostic psychiatrique. Et d'ailleurs, pour devenir un oligarque richissime, il faut avoir des tendances de cet ordre, et notamment avec une obsession du contrôle de leur image. Donc d'un côté, on a supprimé ces zones collectives de défoulement, mais aussi de rigolade autour des travers de nos dirigeants. Et puis, dans un mouvement conjoint, ai-je envie de dire, on a assisté à une guignolisation du monde. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on aurait imaginé Pompidou ou Mitterrand en train de faire des câlins à des jeunes effets blacks faisant des doigts d'honneur. Emmanuel Macron l'a fait. Et franchement, c'est digne d'un sketch dans les guignols. Ah, j'irais bien tripoter un petit effet de black. Vous voyez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, ça débarque dans la réalité. Son fameux texto à Olivier Véran en janvier 2021, « Tiens bon, on les aura ces connards !» On aurait vu ça dans la bouche de Chirac. « Tiens bon, on les aura ces connards !» J'ai très envie d'emmerder les Français. Sauf qu'aujourd'hui, vous voyez, ça n'est plus la satire. C'est le réel. Et donc, ça va tout à fait dans le sens des analyses de Guy Debord, Jean Baudrillard et Michel Maffezoli. Notre époque a dérivé dans une inversion généralisée qu'on observe évidemment à maints endroits, mais également dans ces réalités que j'évoque, c'est-à-dire que ce qui aurait été il n'y a pas si longtemps des sketchs sont devenus réels. Et donc, Guy Debord, qui est probablement celui qui a le plus travaillé cette question de la société du spectacle à travers le livre éponyme et un commentaire au livre La société du spectacle, voyez, avait prophétisé en quelque sorte « Cette société va devenir à tous les niveaux de plus en plus péniblement ridicule ». Et on se souvient par exemple de l'invention macronienne du bain de foule à huis clos lors de dernières cérémonies de la Libération. Et puis de manière générique, Macron se comporte soit comme quelqu'un qui n'a plus sa raison, comme un fou, soit comme quelqu'un qui est une espèce de caricature de lui-même. Donc au beau tweet français que je ne recommande jamais suffisamment, résume le sens géopolitique d'Emmanuel Macron. Je donne des armes à l'Ukraine et je mets de l'huile sur le feu. Je fais le forcing pour parler à Poutine. Je raconte les échanges que j'ai avec Poutine dans la presse. Je me tape l'incruste chez les BRICS. J'accuse la Russie de foutre la merde en Afrique. Et je raconte partout que j'ai les meilleures relations du monde avec tout le monde. Et vraiment, il faut prendre la mesure de ce simulacre de réalité. En déplacement à Marseille, Emmanuel Macron s'est fait filmer avec des élus, déambulant paisiblement dans un voisinage. Mais l'envers du décor, c'est qu'il y avait des CRS qui interdisaient aux habitants de sortir de chez eux, pour surtout pas qu'ils viennent à sa rencontre. Donc Emmanuel Macron est actuellement tellement détesté, il a tellement produit dans la population le sentiment d'avoir trahi tous ses engagements et la confiance que la population française lui faisait, qu'il ne peut plus aller nulle part sans que le pourtour soit sécurisé, dans le sens de quoi ? De la société du spectacle, c'est-à-dire de l'image qu'il peut donner, et encore avec ses inversions extraordinaires. Donc tout ce que disent des gens comme Emmanuel Macron, Olivier Véran, Elisabeth Borne, Gérard Darmanin, faut toujours prendre le contre-pied pour comprendre ce qu'ils disent réellement. Et donc vous voyez, récemment, alors que l'inénarrable Roselyne Bachelot, alors là aussi on est dans les guignols en temps réel, qui a dit « Osez dire publiquement, tout le monde est d'accord pour une troisième candidature d'Emmanuel Macron, ceux qui veulent le réélire et ceux qui veulent le battre ». Déjà, il y a 80% des personnes qui ne souhaitent pas qu'il soit réélu, et personne n'a envie qu'il se présente à un troisième mandat qui est interdit par la Constitution. Alors on dit oui, il faut changer la Constitution pour permettre à Emmanuel Macron et donner même l'occasion à ceux qui veulent le battre de le battre. C'est juste complètement insensé, et vous voyez que le chef de l'État, enfin celui qui en tient lieu, a commenté « ce qui m'importe n'est pas de durer », fermant la porte en apparence à un troisième mandat en 2027, et donc Vérité France, qui sait aujourd'hui naviguer dans ce genre de rhétorique, a dit « Traduction, ce qui lui importe, c'est de durer, et vous verrez qu'il y aura toutes sortes de manœuvres pour arriver à cette fin ». Donc, nous avons un président forban, un président malfrat, quelqu'un qui se comporte comme une petite frappe, qui n'a aucun respect pour sa propre parole ou sa propre image. Mais évidemment que le problème va beaucoup plus loin, puisque même le garde des Sceaux, les ministres de la Justice, se donnent la licence de faire un doigt d'honneur en pleine Assemblée nationale, un fuck avec son doigt. Non mais où va-t-on ? Et ceci, ça n'est que l'écume des vagues dont il est question, parce que la réalité, c'est que le gouvernement aujourd'hui est un ramassis de repris de justice, de mise en examen et de personnes qui, de toute évidence, n'auraient rien à faire dans un système de bon sens, dans un système sensé, à des positions de responsabilité publique.
Avant de nous présenter ce texte, Madame Berger, votre majorité aurait gagné, je crois, à s'offrir une séance d'introspection sur le thème de que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il faut dire que vous avez de quoi faire en la matière. Je vous rafraîchis la mémoire. 11 condamnations dans la majorité, dont celle de violence envers une ex-compagne, avec refus du bureau de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire du député concerné, et un autre condamné pour harcèlement sexuel envers une collaboratrice. 8 mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusez du peu, et, pardon, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux, accusé l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt. 12 enquêtes en cours, dont une concerne le ministre du Travail pour favoritisme. 13 mises en examen pour un seul homme, champion de France, toute catégorie, du nombre de mises en examen, accusé notamment de fraude fiscale, emploi fictif, financement illicite de dépenses électorales, cet homme qui n'est autre que le conseiller politique du président de la République. Votre formation politique a même hésité à réinvestir dans la 9e circonscription des Français de l'étranger. L'un des vôtres, qui a été en son temps défendu par celui qui est devenu garde des Sceaux et qui a été condamné en première instance à 3 ans de prison, dont un an ferme, et 2 ans d'inéligibilité pour violence volontaire. Mais qu'est donc devenu ce candidat à l'élection présidentielle qui, en 2017, déclarait qu'un ministre devrait quitter le gouvernement s'il était mis en examen ? Le président Macron, au contraire, aura, contrairement à tous ses prédécesseurs, renoncé à cette exigence éthique. Et vous venez nous parler de probité, alors même qu'un des premiers signataire de ce texte par ordre alphabétique est accusé au terme de 2 plaintes de viol sous soumission chimique et de tentative de viol. Beau bilan.
Donc, comme vient de le rappeler à l'Assemblée nationale Olivier Marleix, député des Républicains, nous sommes vraiment face à un gouvernement, c'est l'équivalent des frères et des sœurs Dalton. Vraiment, il y a une impunité dans l'inconduite, voire dans la délinquance. Et on sait, avec une défaillance massive des parquets et des tribunaux, à remédier à cet état de fait qui, évidemment, ne devrait simplement pas exister. Alors, lisons, relisons Michel Maffezoli. L'extrait que je vous cite est tiré du Temps des peurs, un ouvrage que, évidemment, je vous recommande. Analysant ces réalités, le grand sociologue indique la logique de leurs actions et de leurs interprétations est tout simplement le mensonge. Et leurs fugaces vérités ont l'allure de fantômes mimant le réel. C'est lorsque cela se produit que le réel devient fantomatique et ne correspond plus à rien, ce qui est la caractéristique même des périodes de décadence. Celle-ci, de tout temps, voit fleurir les pitreries d'une élite aimant à se repaître de ce que Jean Baudrillard, en ses subtiles analyses, nommait des simulacres. Et donc on a vu ces inconduites, ces banquets auxquels participaient les journalistes de BFM TV, les politiciens qu'ils invitaient à l'époque où la France entière était privée d'interaction sociale. Vous voyez, c'est cette manière de se vautrer dans l'inconduite et dans l'impunité. Et puisque nous avons cité Roselyne Bachelot, de nouveau mesurons à quel point la réalité a rejoint non seulement la fiction, mais même la satire.
Ah, j'ai donc avec la ministre de la Santé.
Oh bon ?
Oui, Madame Bachelot, la vaccination contre la grippe A a commencé, mais les Français ne se sont pas rendus dans les centres. Ça vous inquiète ?
Ah oh bah oui, c'est très inquiétant. Il faut absolument se faire vacciner.
Pourquoi ?
Bah sinon, les Français vont tous mourir.
Vous êtes sûr ?
Mais certaine. La grippe A est très dangereuse. Elle tue sans prévenir. En 2 heures, vous êtes raide.
Oui, on vous a entendu dire ça ce matin sur Europe 1, mais c'est un peu catastrophiste.
Mais pas du tout, c'est la vérité. J'ai vu des scènes horribles à l'hôpital, vous savez. Des malades atteints de la grippe A qui se vidaient de leur sang, qui perdaient des membres en veux-tu, en voilà.
Oh, Mme Bachelot, vous exagérez. Oh,
la grippe A, c'est des symptômes horribles. Vous avez tout d'abord des pustules qui vous recouvrent le corps. Ensuite, c'est les douleurs d'estomac. Et après, vous avez un petit être qui sort de votre ventre avec une longue mâchoire.
Comme dans Alien ?
En pire, parce qu'en plus, vous avez mal à la gorge.
Madame Bachelot, les Français savent que la grippe A peut tuer, mais on ignore si le vaccin n'entraîne pas d'effets secondaires.
Peu importe, la grippe A tue, c'est tout, c'est ce qu'il faut savoir.
Ben justement, non, les Français veulent en savoir plus.
Ah, vous voulez en savoir plus ? Tant pis pour vous. Non seulement la grippe A tue, mais une fois mort, les soirs de pleine lune, vous sortirez de votre tombe, tout vert, et vous attaquerez d'autres gens pour les manger.
Comme dans Thriller ?
En pire, parce qu'en plus, vous avez le nez qui coule.
Madame Bachelot, est-ce que faire peur, c'est la solution ? On va peut-être mieux essayer d'informer les Français.
Oh, informer, c'est trop compliqué. La grippe, ah, j'y comprends rien. Est-ce que je vous ai raconté que si la grippe vous atteint, votre voix va changer, votre visage devenir tout vert, et votre tête va tourner à 360 degrés, et les meubles vont voler dans votre chambre.
Oui, l'exorciste, oui.
pire, parce qu'en plus, vous avez des courbatures.
Elle n'arrive pas à vendre ses vaccins, mais elle m'a donné envie d'acheter des DVD, hein.
Donc rappelons à toutes fins utiles qu'il s'agissait pour ce sketch de l'épisode de la grippe H1N1 qui a eu lieu en 2009 et que les rapports d'enquête, notamment du CMA français, avaient identifié tout ce qui avait dysfonctionné, notamment la corruption des experts, les conflits d'intérêts, le fait de faire paniquer la population pour pouvoir fourguer des médicaments et des vaccins. Et comme on le sait, en général, quand on étudie des catastrophes, c'est pour remédier, c'est pas pour s'assurer que la catastrophe suivante sera encore plus violente. Mais là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, toutes celles et ceux, en tout cas un grand nombre, qui ont joué un rôle de premier plan dans ce désastre de la gestion de H1N1, très limité par rapport au désastre de la gestion du Covid-19, comme Madame Roselyne Bachelot, comme Antoine Flahault, épidémiologiste terroriste, c'est-à-dire que lui, son but, c'est de terroriser la population, même quand il n'y a aucune raison d'avoir peur, et Jean-François Delfraissy, qui s'est retrouvé à la tête du Conseil scientifique français, eh bien, ont été de nouveau aux commandes pour une situation qu'ils avaient dramatiquement mal gérée et pour laquelle ils n'avaient commis que des erreurs. Et donc, on a inventé des réponses soi-disant sanitaires qui étaient absurdes au possible, c'est surréaliste, c'est digne du théâtre de Ionesco ou d'Alfred Jarry. Et à vrai dire, en sachant, je vous le rappelle une fois de plus, que les recommandations de tous les plans pandémie, y compris ceux de l'OMS en 2006 et 2019, étaient « on laisse la société vivre le plus normalement possible, on protège les personnes à risque, on laisse les médecins généralistes soigner les gens et... » Le problème passe en quelques semaines. Voyez ce qu'un Jean Castex, mais évidemment tous les cabinets de conseil qui a imposé à la France et à tous les pays occidentaux des mesures aussi délirantes, ce qu'il a osé affirmer sans rire, comme s'il y croyait, à la population, et que le peuple de France a osé accepter plutôt que de virer ce monsieur Castex avec du goudron et des plumes.
Dans le prolongement des dispositions déjà prises, notamment la fermeture des discothèques, nous avons aujourd'hui adopté les mesures complémentaires suivantes qui s'appliqueront à compter de lundi prochain pour une durée de 3 semaines. Les concerts debout seront interdits. La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Pour le réveillon du 31 janvier, je vous renouvelle en y insistant les recommandations que j'avais émises le 17 décembre dernier. Limitons les grandes fêtes et les grands dîners. Portons le masque, aérons les pièces. Respectons les gestes barrières, testons-nous toutes mesures de bon sens qui font confiance à notre sens des responsabilités. Toutes les cérémonies de vœux prévues en janvier seront par ailleurs annulées.
Ah, vous voyez, c'est digne des guignols de l'info, c'est des guignols des réponses sanitaires, et il ne vous aura pas échappé en cours de route que le réveillon est le 31 janvier. Nouvelle innovation. Et donc, on a vu des soi-disant experts, je rappelle qu'un expert, étymologiquement, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves et dont la compétence est solide. Donc, on a vu Karine Lacombe, virologue, oser affirmer que les virus à ARN comme le SARS-CoV-2 ne mutaient pas et donc ne faisaient pas de variants. Mais c'est comme si je vous expliquais que dans l'espèce humaine, il n'y a pas de système de parenté. C'est juste invraisemblable. Elle a eu tort sur tout, les cas, les prédictions de mort, le remdesivir, les vagues versus les variants, l'efficacité des injections géniques expérimentales, et pourtant elle continue d'être invitée partout. Ferguson, le fameux modélisateur fou de l'Imperial College, qui a eu tort sur tout depuis 20 ans. Il n'y a pas une prévision qu'il a fait juste. Et Vincent Pavan a montré que ces modèles ne permettent pas de faire des prévisions justes. C'est une escroquerie scientifique et intellectuelle. Et encore celui vers lequel on se tourne pour essayer de comprendre à quoi nous avons affaire Et puis bien sûr, dans la rubrique des affirmations himalayesques dans l'absurde, on a cette réponse d'Agnès Buzyn devant la commission du Sénat le 30 juin 2020. « J'ai interdit la chloroquine parce que moins on prend de médicaments, mieux c'est. » Ce qui est juste stupéfiant. Mais voyez, l'égarement collectif est tel que des énormités pareilles n'entraînent aucune conséquence. Alors tournons-nous encore une fois vers Michel Maffezoli. Médecins ne soignant pas, scientifiques ne publiant pas mais passant leur temps à la radio ou dans les débats télévisés, experts en divers domaines sauf celui dont ils parlent, tous se contentent de recycler les mêmes antiennes un peu rancies, voilà les protagonistes du café du commerce contemporain, voilà la claque, pourrait-on dire, des politiciens en spectacle. Ainsi se conforte la tyrannie du spectacle médiatico-politique, dont la fonction essentielle est de manipuler d'une manière terroriste l'opinion publique. Voilà les lumières dont nous aurions besoin dans les journaux, les magazines, les émissions télévisées pour éclairer le réel de ce que nous observons, et dont une autre illustration, bien sûr, est celle de la dégénérescence du mouvement LGBTQ. Alors je rappelle une fois de plus que personne, ça ne regarde personne ce que vous faites chez vous en matière de pratique sexuelle, c'est en tout cas ma position la plus rigoureuse possible. Par contre, lorsqu'on expose des enfants dans la rue aux organes génitaux d'adultes, lorsque ceux qui ont hurlé liberté parce qu'ils voulaient disposer de leur propre corps face à une expérimentation médicale interdite par la loi, on les a transformés en sous-citoyens, face à des gens qui demandent la liberté d'exhiber leur nudité à des enfants et qui sont encouragés par le système, si nous ne comprenons pas qu'il y a dans cette caricature de dépravation quelque chose à la fois d'épouvantablement grotesque, mais aussi de profondément toxique pour le collectif, c'est qu'effectivement, l'égarement dans lequel nous sommes atteint des sommets profondément toxiques. Voilà les images d'une petite Pride qui s'est déroulée récemment à New York et que je vous laisse savourer en connaisseur. Alors bien sûr, non seulement est-ce d'un mauvais goût prononcé, mais de nouveau, que ces gens vivent la sexualité de leur choix en trémoussant leurs fesses sous le nez les uns des autres en privé, bah ma foi, cela relève de leur sphère privée, mais quand ça devient public, et de nouveau, sachons écouter. Et je vous passe l'extrait d'une manifestation, au Canada à ma connaissance, où les manifestants dans cette mouvance idéologique disent très clairement « Nous sommes ici, nous sommes queer, et nous venons pour... nous attaquer à vos enfants. » C'est le slogan qu'ils chantent. Et donc je n'ai pas besoin, j'imagine, d'insister sur à quel point il est préoccupant de faire passer pour intolérant les gens qui trouvent quelque chose à redire à ces expressions qui sont juste complètement débridées et qui font énormément de dégâts sur le psychisme des enfants. C'est ce que disent tous les pédopsychiatres et les spécialistes du développement de l'enfance. Mais le délire de notre société ne s'arrête pas là. Il faut savoir qu'à New York, c'est authentique, selon le New York Post, il y a des pizzerias à qui on a interdit d'utiliser des fours à bois pour lutter contre le réchauffement climatique. Comme si ça pouvait avoir la moindre incidence. Vous voyez le degré de délire. Et puis, le délire administratif à la française. Désormais, récupérer l'eau de pluie chez vous vous expose à des amendes faramineuses parce que l'État, désormais, c'est le propre des services totalitaires, s'attribue la propriété et la responsabilité d'intervenir dans tout. Et donc, c'est pas une blague. Vous récupérez de l'eau de pluie chez vous, vous êtes amendable. Puis bien sûr, les inénarrables pseudo-journalistes français, comme Julien Bread, qui face à Mr. Schwab, dont il ne savait pas, il est journaliste, Monsieur Pain, c'est son travail de savoir à qui il s'adresse, ne sachant pas que Monsieur Schwab parlait français, s'est adressé à lui en anglais, et comme le résume au bon tweet français, « I am Julien Bread, I am fact-checker, and I detest the complotist, can I pose you des questions ?» Et puis rappelez qu'aujourd'hui, les soi-disant satiristes sont devenus des instruments actifs du totalitarisme, et notamment le malheureux canard enchaîné, Charlie Hebdo aussi à d'innombrables reprises, vous voyez, se sont permis de moquer les gens qui gardaient pour quelques grains de bon sens. Voyez, l'étoile jaune, symbole d'une poignée d'antivax, tu n'as aucun respect pour ceux qui ont connu la guerre, si pour les nazis. Donc, écoutez bien, les antivax, c'est-à-dire ceux qui ont refusé de se soumettre à une expérimentation génique interdite par les codes internationaux sur le droit de la santé, sont traités de nostalgiques du nazisme. Alors, heureusement que Vera Sharaf, grande survivante de l'Holocauste et grande militante des droits humains, elle dit non, ce que nous vivons est exactement isomorphe, ça a la même forme, ça prend les mêmes caractéristiques, et notamment dans les dessins de presse odieux du canard enchaîné et autres canards qui ne nous font plus rire depuis longtemps parce qu'ils ont basculé eux aussi dans les simulacres de la société du spectacle. Je me permets une dernière citation de Michel Maffezoli. « Cette manipulation mentale généralisée est suscitée par une presse aux ordres, débitant sans fin et d'une manière unidimensionnelle quelques lieux communs vaguement scientifiques, jusqu'à rendre acceptable par la majorité ce qui ne l'était pas jusqu'alors. La majorité, réduite au silence, censurée, se soumet dès lors à ce qui est présenté comme légal ou normalisé. » Et voilà la triste réalité dans laquelle nous baignons. Nos politiciens sont des guignols, nos journalistes sont des guignols, les médecins de plateau sont des guignols, les soi-disant scientifiques experts qui annonnent ânerie sur ânerie sont des guignols, et les quelques valeureux qui essayent de rétablir la réalité des choses et de faire valoir des points de vue intelligents et critiques se font eux-mêmes traiter de guignols. Et une magnifique saillie que j'ai reçue suite à mon dernier passage chez André Bercoff à Sud Radio. Voyez le commentaire de cet internaute profondément éclairé, complotiste. Voilà, si vous avez apprécié cette émission, je vous invite à soutenir nos efforts pour que nous puissions continuer à vous soutenir. Sur le site jdmichel.tv, vous pouvez trouver la description de cette chaîne. En vous abonnant ou en effectuant une donation du montant de votre choix, vous pouvez accéder à l'entier des contenus existants et ceux que je vais produire tout au long de l'été sur ce qu'on a dit à la population autour de la crise sanitaire. Merci. À demain.